La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Que diriez-vous si nous vous disions que les privilèges n'ont pas été abolis après la Révolution française de 1789 ? Pire, que les privilèges sont même constitutifs du monde moderne, des privilèges qui aujourd'hui nous entravent et qui régissent nos vies à travers de nombreux contrats de domination, comme le capitalisme, le patriarcat, le spécisme, le validisme, le racisme ou encore l'agisme, des privilèges qui se cachent aujourd'hui derrière des mots comme mérite, travail, croissance ou même démocratie. Le tableau semble être sombre, et quoi de mieux pour évoquer ce sujet épineux que de recevoir la philosophesse Alice de Rochechouart pour décrypter ensemble son premier essai grand public « Privilèges qu'il nous reste à abolir » aux éditions Lattès. Alice de Rochechouart, docteur en philosophie, chroniqueuse pour l'émission La Dernière diffusée sur Radio Nova et présentée par Guillaume Meurice, intervenante sur le plateau de C'est ce soir et surtout fondatrice et animatrice du podcast Le Fil d'Actu, prône une philosophie accessible et incarnée au cœur de nos vies, nous permet le temps de cet épisode de prendre du recul sur les privilèges que nous exerçons et subissons et nous donne des pistes de réflexion afin de tenter collectivement de pouvoir remettre en question ce paradigme. Allez, nous laissons place à notre conversation avec Alice de Rochechouart. Salut Alice.
Salut Tract, salut Pierre, salut Hugo.
Salut. Alors, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on a beaucoup aimé ton livre, ton premier essai que tu as sorti. C'était l'année dernière, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça, en septembre, ouais.
Voilà, ouais, c'était privilège ce qu'il nous reste à abolir aux éditions Lattès. Avant de commencer dans le dur du sujet et puis ce qu'on va, on va essayer d'aborder un peu ton ouvrage durant cet épisode, est-ce que déjà, tu peux nous présenter ton parcours, comment tu es en arrivé à devenir philosophesse. J'emploie ce mot parce que tu le mentionnes dans ton
livre. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Un petit mot sur le terme philosophesse. En fait, c'est un terme qui est un terme assez ancien, un peu comme autrice, en fait, qui est un terme qui remonte au Moyen-Âge. Et j'ai une fille que je connais qui a écrit un livre qui s'appelle Philosophesse, qui essaie de réhabiliter ce terme. Tout comme autrice, ça a été réhabilité. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé dans le livre. Pour revenir sur la question de mon parcours, comment j'en suis arrivée là? Je pense que comme beaucoup d'enfants, je posais beaucoup de questions et je pense que tous les enfants sont assez philosophes dans l'âme, dans le sens où ils interrogent ce qui est, de manière parfois subversive ou en tout cas avec un regard assez neuf. Et ensuite, comme dans beaucoup de milieux sociaux, mais en tout cas dans le mien, surtout dans l'éducation que j'ai eue, l'éducation scolaire, où j'étais dans des écoles, j'en parle dans le livre, hein, des écoles privées, donc vraiment des écoles très élitistes, avec une volonté de reproduction sociale très forte. Et dans ces écoles-là, on apprend à surtout ne pas poser de questions et ne pas remettre les choses en cause, et donc surtout ne pas être subversif.
Ouais.
Et donc j'ai désappris quelque part à poser des questions. Et puis ça m'est revenu après au contact dans mes études supérieures, parce que j'ai fait, je le raconte aussi dans le livre, hein, c'est pour ça que là je vous parle un petit peu dans les détails, mais J'ai fait après une effroyable école de commerce. Et à la sortie de l'école, j'ai déjà peiné à terminer parce que c'était vraiment insupportable. Et à la sortie de l'école, je me suis dit, OK, il va falloir que je surcompense un peu cette horreur que je viens de vivre. Et donc, je me suis mise dans la philo. J'avais besoin de réfléchir et de poser des questions après ce que j'avais vécu. Et c'était soit ça, soit de la pyromanie. Donc, j'ai choisi la philo. Et c'est comme ça que j'ai repris un master et après un doctorat de philo. Et j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé que c'était formidable, quoi. J'ai retrouvé vraiment cette philo assez incandescente ou en tout cas subversive, ce qui me plaisait dans le domaine philosophique. Et après, il a fallu trouver un poste à l'université, ce qui est un peu l'équivalent des Hunger Games. Et donc, j'ai fini par me dire aussi que c'était non seulement quasi impossible, mais que surtout, j'aimais de moins en moins ce côté un peu élitiste de la philo universitaire, où en fait, ça s'adresse à 20 personnes, à Normal Sup, quoi. Et j'ai voulu remettre un peu la philosophie dans la rue, dans le sens d'une philosophie qui serait accessible à toutes et à tous et d'une philosophie très contestataire et subversive. Et c'est pour ça que j'ai créé le podcast Le Fil d'Actu. Et du coup, j'ai créé le podcast en me disant, voilà, c'est gratuit, c'est toutes les semaines. Je vous propose des réflexions. Après, chacun en fait ce qu'il veut, chacun, chacune. Et surtout, l'idée, c'est de faire de la vulgarisation qui soit pas... j'espère que c'est à peu près réussi, qui soit pas trop professorale, c'est-à-dire condescendante, quoi. J'essaye de dire, je vulgarise des concepts qui sont parfois compliqués, mais l'idée c'est pas de vous asséner, de vous instruire, c'est de vous donner des concepts en fait, et après que vous les appropriez. Et le podcast a ensuite mené à d'autres choses, dont le livre. Et je suis extrêmement contente d'avoir pu écrire ce livre.
Ouais, puis ce qui est cool avec ton podcast, c'est qu'en plus c'est des épisodes qui sont, ça dure une quinzaine de minutes. Tu te bases sur généralement un auteur ou un philosophe, donc ça permet tout de suite de bien cerner le propos, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, les deux, ce que je voulais vraiment faire dans le podcast, c'était effectivement des épisodes assez courts, parce que c'est des chroniques, et donc pas le tunnel d'une heure, quoi, où tu dis, je vais me taper une heure de cours, ça peut être un peu la flemme. Et donc, te dire, OK, une chronique d'une heure, c'est un peu une pastille hebdomadaire que tu vas... derrière, qui va pouvoir t'ouvrir ou pas des réflexions. Et puis, je voulais que ce soit en lien avec l'actualité. Ça me paraissait vraiment important parce que la philo est parfois enseignée de manière un petit peu froide, comme étant une espèce de théorie où on a une distance. C'est un peu dans la philo dans la tour d'ivoire et on la contemple de l'extérieur, quoi. Mais non, moi, ce que j'aime dans la philo, c'est justement pas ça. C'est vraiment, je disais, la philosophie dans la rue. Faut se rappeler qu'au départ, la philo, telle qu'elle est pratiquée, par exemple, par Socrate, Socrate, c'est un gars qui va dans les rues d'Athènes et qui va invectiver tout le monde, qui va poser des questions, quoi. Les gens sont tranquilles assis, puis il y a Socrate qui arrive pour poser 30 000 questions et remettre en cause ce qui se passe, quoi. Enfin, c'est clairement un gros relou, hein, quand tu lis les dialogues. Et c'est ça que je trouvais marrant, en fait, aussi. C'est de se dire, on va renouer avec cette dimension ultra politique, ultra subversive de la philo, quoi. La philo, c'est pas censé nous laisser indifférents, c'est pas juste une contemplation sur les vérités éternelles de l'âme, pas du tout. En fait, ça peut être, en tout cas pour moi, ça doit être d'abord une philo incandescente, quoi. Quelque chose qui met le feu, en fait.
Il y a un peu Sayus North aussi qui a fait ça sur YouTube, lui depuis un moment. Enfin, il le fait un peu moins maintenant, mais où il essaie plutôt de décrire les concepts de philo de façon plus digeste, on va dire, sur YouTube. Il t'a un peu inspiré, lui, dans le sens où...
J'ai pas entendu le nom de la personne.
Sayus North. Sur YouTube.
Ouais, alors en fait, moi, comme j'ai 150 ans, je ne regarde pas YouTube. Enfin, vraiment, je suis nulle dans le YouTube game. Donc là, tu me parles de... Enfin, vraiment, j'ai 150 ans, quoi. Donc non, la réponse, c'est non, il m'a pas inspiré parce que je connaissais pas. Donc c'est... Ah si, attends. Non, mais tu vois, regarde, je suis même pas sûre de connaître. Non, en fait, moi, je regardais très peu de vidéos, de trucs comme ça. Et par contre, je connaissais quand même quelques personnes qui font de la vulgarisation de philo. T'as par exemple le Précepteur, qui est assez connu sur...
Mais c'est long, lui, ces épisodes.
Ouais, voilà, il fait des épisodes plus longs. Et puis surtout, lui, il a vraiment cette posture de prof de philo, qui est de dire, je vous parle pendant une heure d'un ou d'une philosophe et je vous fais un cours, en fait, sur sa pensée. Mais il se mouille pas du tout. Tu sais pas du tout quelles sont ses convictions politiques. Enfin, on les devine complètement, mais en tout cas, elles sont pas explicites. Et justement, moi, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Je voulais, enfin, déjà parce qu'en fait, il le fait et donc il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 profs de philo en podcast ou sur YouTube. Et puis aussi parce que moi, c'est pas du tout ma conception de, enfin, En fait, je voulais pas faire prof de philo, je voulais plus faire quelque chose qui est de l'ordre de la recherche en philo, où tu vas beaucoup plus choisir un angle et un sujet et proposer une réflexion engagée, en fait, en réalité. C'est ça que je voulais faire. Donc, c'est pas tout à fait le, voilà. Après, l'autre, je sais pas ce qu'il fait, celui dont t'as parlé, mais je me sens un peu à l'ouest.
Avant de continuer, sachez que chez Since Nothing, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur ghost.sincenothing.com, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir nos collections de t-shirts imprimés en sérigraphie par nos soins, dans un univers hardcore et tatou qui font écho à nos questionnements sur la place de l'émerveillement dans nos vies, malgré nos peurs et nos souffrances mentales et sociétales. Merci et bon podcast.
Bah, et en fait, non, mais en fait, il prenait des concepts généraux, par exemple, l'absurde de Camus, et puis il allait expliquer dans une vidéo de 10 minutes ce qu'était l'absurde de Camus, mais avec la forme de petits sketchs. Mais lui, après, je crois qu'il a jamais fait d'études en philosophie, donc après avoir ce qui était juste ou pas dans ce qu'il disait, quoi. Mais...
Bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait les études académiques. L'idée, c'est que. Mais là, tu vois, dans ce que tu me décris. Il fait des pastilles en gros de 10 minutes où il explique un concept, mais moi ce que je voulais c'était vraiment montrer comment ces concepts là ils sont pas c'est pas juste de la théorie quoi, ouais. Que ça a en fait une incidence directe, et en fait c'est pour ça qu'à chaque fois je construis mes épisodes en me disant je pars d'un fait d'actu, c'est vraiment le point de départ, je vais chercher un philosophe ou une pensée, un concept et tout, et ensuite on revient sur le fait d'actu en disant ben, en quoi ça nous a fait évoluer, en fait en quoi on a un petit peu modifié notre regard et notre réflexion sur le concept. Donc, tu vois, c'est toujours le lier vraiment à l'actu politique, enfin, pas toujours politique, parce que j'ai fait aussi d'autres thèmes plus artistiques ou quoi, mais bon, c'est vrai que c'est souvent quand même assez politique. Donc, voilà, l'idée, c'était justement de pas être prof, c'est d'être vraiment, plus engagé, quoi. Vraiment, de faire des réflexions très engagées.
Ouais, puis comme tu dis, le fait de relier à l'actualité, ça, enfin, tu dis ça dans ton livre, de toute façon, c'est que la philosophie, c'est là aussi pour questionner l'évidence, et quand tu le relis comme tu fais à l'actualité, ça te permet justement d'avoir un... Enfin, toi, en tout cas, avec tes épisodes, ça permet d'adopter un autre point de vue sur l'actualité, quoi.
Bah, j'espère. Et le but des épisodes, c'est pas forcément d'être d'accord avec moi, parce qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui sont pas d'accord. Bon, il y a pas des gros droitards qui écoutent, je pense, quand même, à moins qu'ils soient un petit peu maso. Donc, c'est quand même... Parce que c'est quand même très explicite sur l'ultra-gauchisme. Mais je sais que je pars dans un terrain amical, si je me trompe pas.
non, c'est vrai, c'est bon, ouais.
Ouais, c'est bon. Je sais qu'il y a des gens, enfin, il y a des gens qui me le disent parfois, je suis pas d'accord, mais c'est, voilà, moi je suis pas en train de faire de la. Enfin, l'idée, c'est pas que tout le monde soit d'accord avec moi, et je prétends jamais détenir la vérité absolue sur une analyse, et pas du tout. En revanche, je dis voilà, moi, quelle est mon analyse, là où j'en suis. Et l'idée, c'est de fournir des clés de discussion. Et effectivement, ce que j'essaye de faire, alors j'imagine que j'y arrive pas toujours, mais c'est toujours d'aller interroger un petit truc auquel on n'a pas forcément complètement pensé. Et moi, la première, d'ailleurs, c'est-à-dire que en écrivant mes épisodes, je vais trouver des choses qui tout d'un coup me font une espèce de petit hippon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là, mais un petit pouf. Et ah ouais, ok. Et moi, c'est ça que j'aime dans la philo, c'est cette espèce de moment où un peu comme, vous voyez les trucs d'illusion d'optique là, où tout d'un coup, tu louches un peu et tu vois un truc apparaître. Ben, c'est un peu ça, quoi. Et donc, tout d'un coup, ton regard, ta perspective change. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire dans le podcast. Et après, que les gens soient d'accord ou pas, ça permet de déplacer un tout petit peu le questionnement et de prendre un peu du recul aussi par rapport à une actu qui est un peu frénétique, quoi. On est noyé, etc. Et donc, j'essaye aussi, moi, de me dire, OK, on prend un tout petit peu de recul, ne serait-ce qu'un quart d'heure sur un sujet, c'est beaucoup par rapport à... au rythme actuel.
Et du coup, comme on l'a dit un peu en introduction, comme tu le disais en répondant à notre première question, donc certes, tu as le podcast, mais tu as aussi écrit du coup ton premier essai grand public, Privilège, ce qu'il nous reste à abolir aux éditions Lattès. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet, sur le sujet des privilèges ?
Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il m'a semblé que c'est un concept qui refait surface pas mal dans le discours et dans les questionnements militants depuis une quinzaine d'années. On l'entend pas mal parler, le privilège blanc, le privilège masculin, etc. Mmh. Et donc, je trouvais que c'était un thème déjà intéressant. Et en fait, en philo, il n'y a pas grand-chose. J'ai commencé à regarder. Et ça n'a pas vraiment été traité, en tout cas en philo française, parce que dans le monde anglo-saxon, c'est un terme qui est un petit peu plus travaillé. Donc ça, c'est le premier point. Et puis moi, le deuxième point, c'est que moi, ça m'interrogeait sur mon propre parcours. Parce que, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais... comme mon nom de famille l'indique aussi, Je suis née du côté un petit peu, on va dire, du bon côté des privilèges. Et donc, moi, j'avais quelque chose à régler, enfin, ou en tout cas à interroger, quoi. Un positionnement sans doute à éclaircir. Et je dis souvent que la philo, c'est moins cher que la psychothérapie. Et du coup, c'était une manière aussi de réfléchir sur un concept tout en moi réfléchissant sur mon parcours. Et puis, un autre élément d'actualité vraiment politique cette fois-ci, c'est que j'ai appris que, enfin, dans les contestations et les manifestations populaires, etc., depuis quelques années, on voit ressurgir ce thème de privilège. Dans des, par exemple, des banderoles, des tracts, des discours, des slogans, genre réabolissons les privilèges. Ouais. Et ça s'est vraiment beaucoup manifesté au moment des gilets jaunes, dans les cahiers de doléances qui ont été proposés début 2019, suite aux manifestations des gilets jaunes. Dans quasiment la moitié des cahiers de doléances, alors cahiers de doléances qui ont été évidemment oubliés, hein, mis sous clé depuis, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais qui ont quand même été étudiés par certains chercheurs. Et en fait, ils ont montré que dans un peu moins de la moitié de ces cahiers de doléances, on dénonce les privilèges. Ouais. Donc ça m'a semblé intéressant parce que on a dans notre histoire collective, dans notre roman national, le récit très ancré que nous avons aboli les privilèges le 4 août 1789 et que cette abolition extraordinaire sonne le glas de l'ancien régime et le début du nouveau régime moderne et égalitaire et liberté, égalité, fraternité, et c'est trop bien. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il y a d'un côté ce récit, ce roman national qui est très prégnant. Et pourtant, c'est un terme qui vient hanter notre imaginaire politique. Et voilà, là, je me suis dit, il y a quelque chose à analyser là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas réinterroger ce roman national? Alors, je ne suis évidemment pas la première à le faire, mais ouais. Sous l'angle des privilèges, ça me paraissait intéressant. Et donc, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui les privilèges? Et comment est-ce que c'est un concept pertinent pour décrire le système social qui est le nôtre? Et bon, moi, ça m'est apparu que oui. Et c'est ça que j'ai voulu traiter dans le bouquin.
Ouais, mais en plus, c'est ce que t'expliques à l'instant, mais avec ton livre, en plus, on se rend compte que, justement, l'histoire des privilèges ne s'arrête pas avec la Révolution française. Et on se rend compte même, voilà, que ces derniers sont constitutifs du monde moderne. Mais on est beaucoup à être dans une sorte de déni, notamment à cause du fameux mérite, qui, comme le rappelle Chantal Jacquet, est une construction politique qui a servi à légitimer les privilèges de la bourgeoisie. Comme tu l'expliques dans ton livre, hein, c'est une notion qui a été démontée philosophiquement, sociologiquement. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu vas même plus loin en affirmant que cette notion est de toute façon injuste.
Ouais.
Comme on est entre gens de gauche, j'aimerais...
entre gens bien.
Voilà. Est-ce qu'on peut enfin dire dans cet épisode du podcast... que notamment les problèmes politiques de droite qui basent notamment leur discours énormément sur cette notion de mérite, on l'a vu notamment avec la candidate Vassal à Marseille qui l'a rappelé dans son face-à-face avec Delogu et les autres candidats.
Mérite, mais aussi travail, famille, patrie.
Est-ce qu'on peut en conclure que ces programmes sont vides, en fait, ceux qui parlent du mérite, qui est une notion qui n'existe pas et qui est de toute façon injuste?
Je suis pas sûre qu'on puisse parler de programmes vides. Ils me paraissent très, très pleins, ces programmes. Ils me paraissent pleins d'un monde, d'un programme de société absolument injuste et sclérosé, mais ça me paraît pas vide du tout. Je pense que les gens savent très bien ce qu'ils font quand ils défendent à ce point le mérite, quand les gens, en tout cas, qui sont des dominants, le défendent. Donc je dirais pas un programme vide, en fait, un programme injuste et terrifiant, oui, mais vide, je préférerais quelque part, ce serait peut-être moins dangereux. Oui, la question du mérite, effectivement, elle est importante parce que c'est une des raisons, en fait, qui va motiver l'abolition des privilèges en 1789. C'est assez intéressant. Ouais. En fait, jusque dans l'ancien régime, les valeurs qui prédominaient, c'était celle de l'aristocratie, donc c'était plutôt la question de l'honneur. Et à partir du XVIIe, XVIIIe, la bourgeoisie acquiert de plus en plus de pouvoir, et donc il fait partie du tiers-état, hein, la bourgeoisie, mais qui est quand même qui détient de plus en plus de richesses, et ben va distiller cette nouvelle valeur, enfin va incarner et rendre un peu hégémonique cette nouvelle valeur qui est celle du mérite, et qui est plutôt l'idée que il faut prouver sa valeur et être à la hauteur de son rang et qu'en fait ce qu'on obtient est une preuve de sa valeur. Alors qu'avant, c'est pas tout à fait la même chose dans l'aristocratie parce que tu as ce que tu as de naissance. Donc c'est pas tout à fait le même point de vue. Et en fait, c'est justement c'est une des raisons de la nouvelle hégémonie de cette valeur morale qui va motiver l'abolition des privilèges, parce que l'abolition des privilèges, elle est surtout menée par donc la bourgeoisie, qui en fait est extrêmement tout simplement frustrée et furieuse de ne pas avoir accès à certains postes de pouvoir en raison justement du système juridique qui est celui des privilèges. Parce que dans l'Ancien Régime, la société tout entière est constituée de privilèges. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui est universelle. Les lois sont des lois, donc privilèges, c'est lois privées. Donc les lois valent pour des groupes précis de gens. Alors évidemment, il y a les lois qui concernent par exemple la noblesse versus le tiers-état, mais il y a aussi des lois qui concernent certaines corporations de métiers ou même certaines régions. Un exemple que je donne dans le livre, excuse-moi, je pars un peu dans un truc historique, mais je pense qu'il faut revenir un peu à toute l'histoire. Un exemple que je donne dans le livre, c'est que la Bretagne était exemptée de gabelle, qui était l'impôt sur le sel. Donc c'était un privilège. Et c'est pour ça que le beurre est salé en Bretagne. C'est toujours amusant, cette anecdote. Mais en tout cas, voilà, donc j'en reviens à la fin du XVIIIe siècle. La bourgeoisie est frustrée parce qu'elle a beau avoir la richesse, elle est empêchée, elle a un espèce de plafond de verre, qui sont justement les privilèges de la noblesse, qui ne payent pas d'impôts, qui ont droit, qui ont accès à certaines fonctions diplomatiques, certaines fonctions politiques, etc. Et donc, justement, c'est en brandissant l'idée de mérite que une certaine partie de la bourgeoisie arrive à délégitimer l'idée des privilèges et de dire il faut un système universel pour tout le monde avec, en gros, une espèce d'égalité des chances. Et donc, c'est la naissance du mérite. C'est comme ça que le mérite devient totalement hégémonique à partir de la Révolution. Le problème, et là je fais un petit saut dans l'histoire, c'est que effectivement ça a été montré maintes et maintes fois par la sociologie, à commencer par Bourdieu, mais depuis ça continue. Enfin, ça fait 50 ans que la sociologie montre que le mérite, la méritocratie est une illusion. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de méritocratie, il n'y a qu'une reproduction sociale, et l'égalité des chances est évidemment un mythe. Mais, et donc finalement, ça permet de... effectivement, de conforter l'ordre social en prétendant qu'il y a une illusion. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu évoquais dans ta question, c'est que le problème, c'est pas seulement que la méritocratie est une illusion, le problème, c'est que c'est de toute façon un système injuste. Et ça a été étudié par plusieurs philosophes, mais il y en a un que je trouve intéressant, qui est un philosophe états-unien qui s'appelle Michael Sandel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La tyrannie du mérite ». Et lui, il veut justement montrer que même si la méritocratie était réelle, même si elle était effective, ce ne serait pas un bon système. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'on n'est évidemment pas responsable de la situation dans laquelle on est au départ. C'est-à-dire que, pour donner un exemple très simple, si tu nais en étant valide ou en étant porteur de handicap, tu ne peux pas fonder un système moral sur ce hasard, en fait. Donc, en fait, si tu fondes un système moral là-dessus, tu vas nécessairement donner une valeur morale à la chance. Voilà, ce que dit Sandel. Et puis, de toute façon, même si, parce que là, on pourrait dire oui, mais on pourrait y envisager des choses pour équilibrer. Sauf que non, parce que on sait très bien, et il suffit d'avoir vécu une heure et demie sur Terre pour savoir que la nature ne fonctionne pas comme un juge comptable avec des effets mécaniques et des conséquences mathématiques sur chacun de nos actes. Certains de nos efforts vont être rétribués, d'autres non, par aussi la force des choses, etc. Il y a d'autres arguments. Il y a aussi dire qu'on n'est jamais des individus c'est-à-dire que nos actions ne sont jamais imputables à seulement nous-mêmes, elles s'intègrent dans un environnement, ouais. On est aidé par d'autres gens ou pas d'ailleurs, donc on n'est jamais, nos actions ne sont jamais nos actions seules, les actions de nous seuls, on va dire. Il dit aussi que on n'est pas responsable des valeurs qui sont considérées comme méritantes dans la société. Dans la société actuelle, c'est la performance. La performance, et si c'était l'entraide, ce serait une méritocratie complètement différente. Enfin, voilà. Donc lui, Michael Sandel, il a tout un bouquin, donc je ne peux pas résumer tout le bouquin, mais en gros, voilà quelques arguments. Et il dit que le mérite n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. Parce que les conséquences de la méritocratie, c'est de faire croire à chacun qu'il a mérité sa place, donc les personnes précarisées vont intérioriser qu'elles méritent d'être dominées, et d'être maltraitées, et les personnes dominantes vont intérioriser le fait qu'elles méritent d'être en haut et de dominer les autres. Et pour le dernier clou du cercueil de la méritocratie, ça je le rappelle dans le livre parce que c'est assez savoureux, c'est que l'histoire du terme même de méritocratie illustre parfaitement ça. Parce que c'est un terme qui a été forgé par un auteur britannique dans les années 60, qui s'appelle Michael Young. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Rise of Meritocracy, donc la montée de la méritocratie, qui est un roman d'anticipation, et où en fait, la méritocratie, qui est le nouveau système qui gouverne la Grande-Bretagne dans son bouquin, c'est une dystopie, en fait. C'est une dystopie parce que justement, c'est une société fondée sur le QI et l'effort, et donc qui va ensuite attribuer des places à chacun et chacune en fonction de ça, et qui arrive à un système où les gens d'en haut sont épouvantables de mépris et de condescendance, et où finalement les gens d'en bas finissent par se révolter, et donc ça finit à feu et à sang. Donc ce qui est intéressant, c'est que le terme même de méritocratie, au départ, c'est le nom d'un cauchemar, en fait. Et 20 ans plus tard, ça a été réhabilité par évidemment le tournant néolibéral et l'individualisme, etc., et le culte de la performance. Et aujourd'hui, on en arrive à des gens qui défendent l'idée de méritocratie. Et en fait, c'est horrible. Il y a un exemple que je trouve assez marrant, j'en parle pas dans le livre, mais je sais pas si vous regardez Koh-Lanta.
Plus maintenant.
Plus maintenant. Bon, de toute façon, c'est marrant, mais c'est toujours un peu pareil, des saisons. Ouais. Mais ils n'ont que ce mot à la bouche, le mérite. La méritocratie, le mérite. À chaque épisode, ça revient. Il y a toujours un gars qui dit « Non, mais moi, je fais au mérite, etc. » Sauf qu'en fait, quand on regarde ce qu'ils appellent être le mérite, c'est qu'ils éliminent ceux qui sont moins musclés, quoi. En fait, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'ils vont jamais vraiment rétribuer les efforts que les gens font. Ils vont rétribuer celui ou celle qui est le plus musclé. Donc, on est complètement dans l'idée qu'on ne va jamais valoriser l'effort, mais on va toujours valoriser le résultat. Donc, c'est pas du tout du mérite. C'est juste de la pure hiérarchie et de la pure... c'est de la pure performance, en fait.
Ouais, mais c'est aussi cette notion de mérite qui est devenue... maintenant, c'est une vraie croyance, quoi. Du coup, qui est vachement en temps de s'en détacher, au final. Même pour, on va dire, au-delà des bourgeois, même, on va dire, pour le peuple du bas, quoi. Il y a toujours cette idée de dire, en travaillant plus, je vais y arriver, et puis on... En fait, comment on pourrait faire, du coup, pour casser vraiment cette idée de mérite, et se dire, on met tout à plat, ou alors effectivement, comme dans le livre de Michael Sandel, peut-être qu'un jour la vraie révolution arrivera, du coup.
Ouais, ça c'est l'éternel problème, hein. Comment on fait pour pour déconstruire l'hégémonie culturelle et l'idéologie. C'est effectivement, on est biberonné à l'idée de mérite, donc c'est complètement intériorisé. Moi, je le raconte dans le livre aussi. Moi, pendant longtemps, j'y ai cru à l'idée de mérite, hein. Parce que c'est ce qu'on me rappelait, et puis moi je travaillais pour avoir des bonnes notes, et donc j'avais mes bonnes notes, et donc c'était mérité quelque part. Sauf que un peu plus tard, je me suis rendu compte, c'est plus facile quand tu viens d'un milieu culturel où on te lit des trucs depuis que t'es petit, où tu as l'opportunité de travailler tranquillement, où tu n'as jamais à être questionné sur la situation matérielle qui te permet donc derrière de travailler, etc., etc. Et ça, j'ai mis du temps, parce que pour une raison très simple, c'est que c'était confortable, c'était rassurant de croire au mérite. Croire que, donc, quand tu réussis et qu'en plus on te dit que tu l'as mérité et que c'est légitime, c'est sympa, quoi. T'as une double bonne note quelque part. Donc déjà, c'est pour les dominants. Et pour les dominés, effectivement, ça, c'est sans doute un peu désespérant de se dire que la situation sociale est bloquée, qu'on vit dans une société inégalitaire figée, sclérosée, où les transclasses sont des exceptions tellement statistiques qu'ils sont des exceptions qui confirment la règle. C'est évidemment plus rassurant, ou en tout cas c'est salvateur de se dire que peut-être qu'en travaillant beaucoup tu pourras t'en sortir. C'est, dans le bouquin, je reprends à Marx l'expression de opium du peuple pour parler de la méritocratie, justement, pour parler du mérite. L'expression d'opium du peuple de Marx, elle est vraiment intéressante parce que elle dit deux choses. Elle dit que d'un côté ça endort, mais que de l'autre c'est aussi comme de l'opium un antidouleur, en fait. Et ça, c'est des deux dimensions qui sont présentes dans l'expression de Marx. Et là, c'est la même chose. D'un côté, tu endors la société en laissant croire qu'on pourrait s'en sortir alors que non. Mais aussi, tu consoles. Tu consoles parce que, comme tu disais, c'est plus... sinon, tu peux sombrer dans le désespoir, quoi. Si on te... D'ailleurs, j'ai vu des témoignages de profs qui étaient profs en REP, par exemple, et qui se posaient cette question, qui disaient, est-ce que je vais dire à mes élèves qu'en gros, ils sont niqués, quoi? Mais en fait, je vais les faire sombrer dans le désespoir et ils vont se résigner et rien faire. Alors, pas leur dire aussi brutalement, mais en tout cas, leur parler de sociaux. Ou alors, est-ce que je vais leur laisser croire que peut-être que l'un d'entre eux va pouvoir s'en sortir, même si c'est un peu un mensonge et qu'ils vont sans doute se heurter à de la frustration et de la déception, parce que dans la plupart des cas, ça marche pas. T'as beau bosser comme un fou, si t'es pas né au bon endroit, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Voilà, ses profs en question n'avaient pas forcément résolu le problème, hein, mais je sais pas comment faire pour sortir cette idée-là des gens. Bah déjà, on en parle. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus quand même de cette question du mérite, comme une dizaine d'années, je pense.
Et puis ça passe de toute façon par une étape où il faut intérioriser ce truc-là et se dire, pour se rendre compte que tout ça est injuste effectivement, il faut vraiment s'intérioriser pour justement que ça donne une force après à se dire, on va essayer de renverser ce truc-là, quoi.
Ouais. Et après, bon, ça, on peut anticiper un peu, mais il y a quelque chose qu'on a du mal à faire, je pense, à gauche. C'est pas que notre faute, hein, c'est aussi parce qu'on faut voir contre quoi on se bat. C'est qu'on est très bon pour porter des diagnostics sur la société, des diagnostics critiques et dire ce qui va pas. On arrive un peu moins à faire vivre les alternatives, je trouve, dans les représentations et dans les désirs. C'est vrai. Alors, on n'a pas forcément l'espace pour le faire. Hein, donc, bon, voilà, encore une fois, la montée du fascisme, c'est difficile de porter des utopies en ce moment. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire aussi dans le livre. Là, j'anticipe un petit peu, mais dans le dernier chapitre, où justement j'ai voulu consacrer tout un chapitre à proposer des alternatives, c'est qu'on vit dans un monde où, depuis les années 80, depuis en gros Margaret Thatcher, le néolibéralisme et l'idée qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, après la chute de l'Union soviétique, il y a cette idée que l'horizon est bouché et que, bah oui, le capitalisme, c'est pas toujours génial, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, quoi? Et t'as toujours, toujours, toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais on va pas refaire le goulag, version OSS, quoi, et les chaussures à fermeture éclair, quoi. Et donc, t'as une espèce d'horizon bouché comme ça. Pourtant, il y a plein d'alternatives qui sont proposées, qui sont pensées. Et donc là, mon avis, le défi de la gauche, c'est vraiment de les faire vivre, quoi. Et de les faire vivre de manière radicale et utopique, et pas une version on va passer aux 33 heures de travail, quoi. Enfin, c'est pas ça l'utopie qu'il faut faire vivre. C'est pas le réformisme, en fait. Il faut proposer un contre-système de société. Et c'est peut-être là où on arrivera à dire aux gens, mais en fait, vous savez, on vous parle du mérite, mais il y a d'autres valeurs, en fait, qui sont tout aussi meilleures pour fonder une société, et qui sont beaucoup plus enviables. Je pense par exemple à l'entraide, la question de l'entraide ou de la contribution, qui sont, à mon avis, plus intéressantes. Et à mon avis, c'est ce qu'on pratique au quotidien. Il faut peut-être revenir à un truc comme ça. Dire, mais regardez comment vous vivez, les gens, dans votre vie quotidienne. En fait, avec vos amis, votre famille, etc., vous ne pratiquez pas la méritocratie. La plupart du temps, on ne fonctionne pas comme ça, je pense. Je pense qu'on fonctionne à s'entraider avec ses amis et ses proches, quoi.
Ouais, c'est clair, mais c'est clair. Ouais, c'est vrai que dans son cercle familial, amical, on n'est pas là à être dans la compétition entre soi, on est plutôt là à se tirer les uns les autres, quoi.
Mais je pense, et en fait, je pense que ça, c'est peut-être un truc tout simple qu'on pourrait un peu dire aux gens, mais dire, mais en fait, vous pratiquez assez peu le capitalisme dans votre vie quotidienne.
C'est vrai.
En fait. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, t'es pas là. Enfin, il y en a qui le font. En général, ils postent après sur LinkedIn des trucs affreux en disant qu'ils ont obligé leurs enfants à vendre des trucs le week-end, là. Mais la plupart, en fait, on fait pas ça. On est dans le soin, l'entraide. Alors, il y a évidemment des différences genrées, hein. Ici, je grossis le trait, mais dans le soin, notamment, qui est fait aux enfants et au foyer. Mais même comme on disait, dans ces relations amicales, en fait, on pratique pas l'effroyable jusqu'au boutisme méritocratique qu'on a dans notre société capitaliste, quoi. Donc déjà revenir à pensez les gens, comment vous vivez au quotidien, en fait. Mais bon, je sais pas si ça suffirait pour faire sortir les gens de la matrice, hein, mais il y a du taf.
Il y a pour continuer un peu la progression sur ton livre, il y a un concept que tu mets en avant qui est la tresse des privilèges.
Ouais.
Alors pour reprendre tes mots, t'expliques en fait que c'est un enchevêtrement de domination, une corde qui nous enserre et qui nous entrave, et en gros qui nous fait comprendre que nos vies sont régies par des contrats de domination. Alors c'est par exemple le capitalisme, le patriarcat, le spécisme, validisme, racisme, etc. Et qu'une société moderne a été construite grâce à ces contrats de domination qui sont intrinsèquement liés et mutuellement constitutifs. Voilà, déjà, est-ce que tu peux peut-être mieux nous expliquer ce qu'est la tresse des privilèges, peut-être que je l'ai fait là. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est, parce que j'ai l'impression que ça parle de ça aussi, de la consubstantialité chez Nancy Fraser,
ouais,
qui est une notion qui passe généralement un peu sous la trappe au profit de l'intersectionnalité dans les débats.
Ouais. Je vais déjà revenir sur la question de la tresse des privilèges. C'est une image que j'ai voulu mobiliser parce que je trouve qu'elle est assez, elle est assez parlante en fait. On imagine assez bien que chaque corde, chaque fil de la tresse, alors il n'y en aurait plus que trois, ce serait vraiment un tissu, quoi, un maillage, serait à chaque fois un type de hiérarchie. Alors on a cité donc la question donc des différentes classes sociales, sexisme, on va dire homophobie de manière un peu plus large. Spécisme, validisme, racisme évidemment, et j'espère que j'en oublie pas, agisme.
J'avais pas cité. Ouais.
Ouais, c'est toujours un peu gênant parce que je veux pas faire une liste comme si c'était une liste de courses, mais en gros l'idée c'est d'être vaguement exhaustif quand même. Et en fait, l'idée c'est de comprendre comment tous ces systèmes de hiérarchie ne sont pas indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils s'ancrent tous dans un système qui est le système capitaliste. Et c'est pas, il y a le capitalisme d'un côté qui serait un modèle économique et il y aurait d'autres dominations à côté qui seraient parallèles en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la modernité politique s'écrit. Alors, quand je dis capitalisme, là, j'ai une compréhension, effectivement, selon Nancy Fraser, où elle voit le capitalisme pas du tout comme seulement un modèle économique, mais comme un système social total, comme l'était le féodalisme, ouais. En fait. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la féodalité, maintenant, il y a le capitalisme. Et donc, à ce moment-là, quand on regarde sous cet angle-là, on voit que la croissance capitaliste se construit en exploitant le travail reproductif des femmes d'un côté, donc ça va générer à la fois du sexisme et évidemment de l'homophobie parce qu'il y a un contrat hétérosexuel qu'il faut respecter. Le capitalisme et la prospérité européenne et américaine, enfin états-unienne, va se construire dans l'exploitation et l'extraction et la colonisation. Donc là, on arrive aussi à une conception qui est à la fois raciste et écocide. En fait, ce qui est intéressant, c'est de vraiment cette approche, et c'est ça que Fraser appelle la consubstantialité. C'est l'idée que toutes ces échelles de domination, toutes ces hiérarchies, elles partent des mêmes structures sociales, et qu'elles s'alimentent les unes les autres. C'est-à-dire qu'elles sont pas du tout juxtaposées. Donc voilà ce que j'ai voulu dire avec la. Je vais développer encore la consubstantialité, mais dans l'idée de 13 des privilèges, j'avais vraiment envie de montrer comment c'est ce qui forme le tissu social. Donc j'ai vraiment filé c'est le cas de le dire, j'ai filé la métaphore, vestimentaire, tissu. C'est quoi l'adjectif? Je sais pas. Tissu.
Textile.
Textile, merci. La métaphore textile. Parce que je pense que on comprend assez bien, à mon avis, l'image. En quoi c'est différent l'intersectionnalité et la consubstantialité? Alors, c'est dans le prolongement, hein, c'est pas complètement opposé, évidemment. Mais l'intersectionnalité, alors, faut dire que c'est un terme un petit peu plus parlant que la consubstantialité. Consubstantialité, en plus, au départ, c'est un terme chrétien, donc il y a des gens qui tiquent un peu. Mais bon, le terme est quand même parlant. Mais l'intersectionnalité, donc, c'est vraiment une théorie qui est très importante, hein, et qui va montrer comment les oppressions ne s'additionnent pas, mais elles se multiplient, en fait. Donc, ça vient beaucoup du courant du black feminism aux États-Unis, et en fait, qui montre que quand on est une femme et quand on est noire, on ne subit pas juste du sexisme et du racisme comme une addition, mais qu'on subit une misogynie noire, qui est une nouvelle forme supplémentaire de racisme et sexisme. Donc, au départ, c'est une théorie qui est très ancrée dans les conceptions marxistes, c'est-à-dire dans les analyses matérialistes des structures sociales. Ouais. Le problème, c'est que l'intersectionnalité, après, elle a un petit peu évolué et parfois, elle est un peu mal comprise et elle est comprise dans un sens un petit peu trop, j'emploie des mots, mais vous me dites si c'est trop compliqué, mais dans les oppositions ou si c'est pas clair, mais il va être repris dans un courant un petit peu plus culturaliste et donc on va plutôt s'intéresser aux identités d'un point de vue presque individuel, les vécus psychologiques, les vécus subjectifs. Voilà. Donc c'est ce qui va être un peu parfois un... C'est plutôt une intersectionnalité mal comprise, mais c'est vrai que ça a été parfois ce qu'on a pu reprocher à l'intersectionnalité. Et donc chacun, on voit par exemple, j'en parle dans le livre, mais les représentations comme la roue des privilèges, où c'est un peu, où est-ce que vous vous situez, etc. Et c'est une perspective qui peut être un petit peu trop subjective et individuelle, et se dire, quelle est mon identité, etc. L'approche consubstantielle de Nancy Fraser, comme elle c'est vraiment elle s'ancre dans un héritage post-marxiste, elle est vraiment dans une conception matérialiste, donc elle va analyser les structures sociales et les dynamiques de pouvoir qui se mettent en place. Donc c'est pas juste comment, en tant qu'individu, tu vas vivre un certain nombre d'oppressions et comment celles-ci vont s'accumuler ou se renforcer, mais tu vas analyser d'un point de vue plus social. Et par exemple, l'exemple qu'elle donne, alors c'est dans un livre qu'elle a coécrit avec d'autres philosophesses, qui s'appelle Manifeste pour les 99%, et où elle analyse comment, alors par exemple, une femme blanche, CSP+, va avoir un enfant, va embaucher une femme souvent racisée pour s'occuper de son enfant, pendant qu'elle, elle va aller travailler dans une entreprise, on va dire du CAC 40, etc. Et ça, c'est intéressant, cette structure-là, parce que ça, c'est vraiment comment une structure sociale va renforcer les différentes hiérarchies, les différents privilèges. Parce que, bah, il y a d'un côté quand même les femmes qui sont assignées au travail reproductif, hein, et ça les empêche quelque part de participer à la vie capitaliste. Mais du coup, les femmes plus riches vont exercer ce privilège-là en employant des femmes racisées qui, elles, vont être, voilà, enfin, il y a toute cette, donc, le sexisme se double, se renforce avec le racisme. Et en plus, si elle va travailler dans une entreprise du CAC 40, elle va à son tour participer au capitalisme et évidemment à l'écocide général. Voilà. Donc, ouais. Le déplacement, en fait, est assez fin entre intersectionnalité et consubstantialité. L'idée, c'est plus de vraiment retourner, de revenir à une analyse des structures plutôt qu'à juste un vécu trop subjectif, trop dans l'identité. Et qui on est soi-même. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair la distinction. C'est assez fin, mais je trouve que la conception de Fraser est vraiment intéressante. En fait, l'intérêt, pardon, je finis parce que on peut se dire, ok, c'est sympa ta théorie, mais c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est de se dire que le risque de la conception d'intersectionnalité, c'est que quand on interroge la question des privilèges, on va dire le fameux check your privileges. Quels sont, enfin, toi, interroge-toi sur tes propres privilèges. Et oui, c'est une étape importante, mais ça peut malheureusement en rester à une espèce d'introspection un peu trop individualisante et un peu trop dépolitisée. C'est un peu le dev perso de gauche, quoi. Et donc, dans le passage à la consubstantialité, tu vas dire, OK, check your privileges si tu veux, mais maintenant, comment collectivement on s'attaque aux structures ? Et donc, comment moi je m'intègre dans les structures et comment je m'y attaque. Donc, en fait, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est de passer vraiment à une conception plus politique que juste un constat un peu individuel.
Dans la partie réabolir les privilèges de ton livre, tu proposes des pistes pour penser à un autre modèle de société, basé notamment sur une économie juste, et tu t'attaques aux trois idoles du capitalisme que sont la croissance, le travail et la propriété. Comment ces trois figures cristallisent le système de privilèges ?
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par cristallise ? Comment ils les renforcent ? Comment ils sont symptomatiques ?
Comment c'est symptomatique, quoi, de ce système de privilèges ?
Bah, la croissance, alors on va les prendre dans l'ordre. La croissance, le dogme de la croissance, c'est le dogme de l'enrichissement infini, on va dire. Produire toujours plus, s'enrichir toujours plus. Donc, de fait, tu es immédiatement... tu encourages immédiatement les hiérarchies et la domination. Enfin, de fait, parce que le but de la croissance, c'est de produire toujours plus et de soi-même avoir toujours plus. Donc forcément, t'es dans l'idée que ta valeur ou la valeur d'un pays se détermine par le gros tas d'or sur lequel il est assis, quoi. Donc forcément, ça va complètement valider tout un système qui est un système hiérarchique. Et puis, dans les modalités de la croissance, donc ça, c'est vraiment la philosophie de la croissance, on va dire. C'est ce que Aristote appelait les termes techniques. Je vais en caler un. La crématistique, qui est l'idée de le pique-sous, quoi. Comment avoir un tas d'or le plus gros possible. Donc ça, c'est sur la philosophie de la croissance et sur les modalités de la croissance. Ça fonctionne nécessairement par exploitation, extractivisme. Alors, extractivisme de ressources finies. Enfin, tu cherches une croissance infinie dans un monde de ressources finies. Donc, tu vas nécessairement pratiquer l'extractivisme et l'exploitation. Parce que, au bout d'un moment, s'il y a plus de nouvelles ressources à aller chercher, il va falloir aller piquer celles des autres, quoi. Et puis, il va falloir, pour t'enrichir, faire travailler les autres à ta place. Enfin, bon, c'est le système de l'exploitation qui est décrit par Karl Marx, hein. J'invente rien ici. Mais c'est ce qu'on a, c'est ce à quoi on assiste de plus en plus, avec un travail qui est de moins en moins rétribué, un capital qui l'est de plus en plus. Donc on va encore plus rétribuer. Ça j'anticipe sur le travail, mais bon, voilà. Pour le point de la croissance, pour le point de la croissance, et puis du coup bah ça va forcément détruire l'environnement, donc t'es dans un capitalisme qui est forcément destructeur. Donc à la fin t'en arrives à la situation dans laquelle on est, qui est notamment cité par le rapport Oxfam, le dernier là qui est sorti il y a un mois là en 2026, et qui je ne me remets toujours pas de ce chiffre, qui dit que 12 hommes, des hommes hein, bien sûr, possèdent la moitié des richesses mondiales. Je me remets toujours pas.
En effet, oui.
Voilà, donc ça, c'est le dogme de la croissance. C'est cool. Alors que, enfin, on pourrait en penser complètement autre chose. Et on peut, par exemple, la philosophie de la suffisance, qui est pensée depuis les années 70 par des philosophes comme André Gortz, par exemple, et où, voilà, l'idée est de satisfaire les besoins et non pas d'une accumulation toujours plus délirante pour satisfaire des nouveaux besoins, quoi. Un chiffre que je cite dans le livre et que j'ai trouvé intéressant, c'est que si le revenu français, alors c'est le revenu intérieur national brut, je crois, et ben si ce revenu était réparti équitablement entre tous les Français et les Françaises, la moitié suffirait à satisfaire tous les besoins. Donc on pourrait produire deux fois moins, en fait. Voilà.
Ouais, c'est ce que dit Timothée Parry, notamment.
Ouais, voilà, pardon. Mais en fait, t'as raison, le chiffre, excuse-moi, on a l'impression que je ne cite pas mes sources, mais non, excuse-moi, je l'ai effectivement trouvé chez Timothée Parry.
Okay, ouais, oui, tu le cites dans le livre, d'ailleurs, en plus.
Ouais, je cite dans le livre, bien sûr, mais là, je ne l'ai pas cité à l'oral et tu fais bien d'en parler, effectivement. C'est lui qui cite ce truc et j'ai trouvé ça incroyable. Donc, ça, c'est sur la question de la croissance, sur la question de la propriété. La propriété est à la base du système des privilèges, hein, parce que au moment de la Révolution, justement, on fait, enfin en France, mais partout, hein, il se passe un peu la même chose dans toutes les sociétés occidentales à quelques décennies près. On fait de la propriété privée un droit de l'homme, en fait, un droit fondamental. Et donc, ça dit quoi, cette notion de propriété privée? Ça dit que l'homme, parce qu'on parle toujours de l'homme, hein, à cette époque-là, c'est l'homme qui est propriétaire, il est maître en sa propre maison. Il n'y a que lui qui peut décider, et à tel point, toute la réflexion, enfin c'est un courant qui s'appelle les physiocrates et qui eux fondent vraiment la valeur sur le fait d'être un propriétaire terrien, parce qu'on considère que si t'es un propriétaire terrien, si t'es propriétaire de l'endroit où tu vis, tu es en gros un bon père de famille, quoi. Je reprends l'expression de Rose Lamy ici. Et là, tu es capable de bien gérer ton foyer, etc. Et c'est au point qu'il y a des philosophes à cette époque-là et des politistes, des hommes politiques qui disent que le droit de vote ne doit être accordé qu'aux propriétaires. Parce que les autres sont en gros des vagabonds, quoi. Et s'ils sont vagabonds, bah, on va quand même pas leur confier des décisions politiques et un vague droit de regard sur ce qui se passe, qu'ils sont déjà pas capables de se gérer eux-mêmes. Et donc, dans les premières versions du suffrage censitaire, par exemple, donc du suffrage universel théoriquement qui est en fait censitaire, hein, que c'est quand même le premier suffrage qu'on met en place, c'est conditionné à tes ressources, quoi. Aussi on exclut les domestiques parce qu'on considère que les domestiques ont des maîtres, ils sont pas propriétaires. Voilà. Pourquoi je fais un petit détour par la Révolution, c'est parce que la propriété privée et on fait une synonymie en fait entre humanité digne et propriété. Donc on a du mal à s'en sortir. Le problème c'est que les propriétaires s'auto-entretiennent quelque part, et aujourd'hui on est dans un système que Paul Pasquali, le sociologue, nomme héritocratie, non pas méritocratie, puisque la part de l'héritage dans la richesse augmente considérablement. Alors de mémoire, elle était de 35% dans les années 70, la part de la richesse héritée dans le patrimoine des gens, et elle est désormais de 70%, si je ne me trompe pas. Et la plupart des milliardaires aujourd'hui ont hérité, en fait. Donc aujourd'hui, en valorisant sans cesse la propriété privée, on va valoriser la reproduction sociale de celles et ceux qui héritent, quoi. Voilà. Pourquoi aussi j'ai voulu parler de la propriété privée, c'est pour passer à des notions comme la propriété, enfin comme le droit d'usage, qui sont des notions qui sont développées par tout le courant anarchiste depuis le 19e siècle, mais récemment par une prix Nobel qui s'appelle Elinor Ostrom, qui est une prix Nobel d'économie. Et elle a travaillé sur les communs. Et les communs, c'est un peu une troisième voie entre capitalisme et communisme. Là où le capitalisme va exalter la propriété privée en se disant, c'est comme ça que les gens vont bien gérer leur propriété privée, quoi. En fait, en général, ils exploitent jusqu'à plus soif. C'est plutôt ça qui se passe. Et donc, première version, le capitalisme. Et deuxième version, bon, la version un peu caricaturale du communisme, où c'est l'État qui possède et où l'État peut très bien avoir une gestion qui est pas économique, qui est pas du tout souhaitable, parce qu'il peut justement, il a tendance à se comporter comme s'il était lui-même un propriétaire privé des ressources, sans finalement être comptable, être redevable vis-à-vis des citoyens et citoyennes. Pour donner un exemple très récent qui s'est passé l'année dernière, c'était au moment du scandale des eaux en bouteille, là, des eaux minérales, où en fait on s'est rendu compte que l'État, en collusion avec les entreprises privées, avait en gros défoncé les nappes phréatiques, non seulement tout pompé, accordé comme ça des droits d'extraction hallucinants, pollué les nappes phréatiques, à tel point que les habitants locaux doivent maintenant aller chercher leur eau dans des nappes phréatiques voisines, dans des villes proches de genre Vittel ou trucs comme ça. C'est quand même assez fou quand on y pense.
Ouais, c'est clair.
Ouais. Et donc, en fait, l'État, c'est plutôt que de se comporter comme étant le dépositaire, le représentant de ses citoyens et citoyennes, il se comporte comme un propriétaire privé qui ferait ce qu'il veut. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Elinor Ostrom et d'autres économistes développent maintenant la théorie des communs, qui est une manière très, très... De toute façon, c'est encore une des théories qui sont anarchistes en réalité, hein, mais qui sont des manières locales et communes de gérer les ressources. Et en fait, ce qu'elles montrent, c'est que c'est souvent des gestions qui sont beaucoup plus raisonnées, beaucoup plus égalitaires, et qui finalement se font en accord, en harmonie, plus avec le vivant. Parce que tout simplement, si tu dois t'occuper de la quantité d'eau dont tu disposes, conjointement avec les gens qui habitent avec toi, eh ben, t'as intérêt à ce qu'il en reste, quoi. Donc, tu vas essayer de bien le gérer. Enfin, c'est aussi bête que ça.
Ouais, ouais, c'est clair.
Et donc, la théorie des communs est une théorie qui me paraît intéressante et assez porteuse d'un point de vue économique.
Mais tu vois, ce qui est compliqué un peu, c'est que toutes ces notions qu'on aborde, bah voilà, là, on vient de parler de la propriété, du travail, de la croissance, mais en fait, c'est des notions qui sont... Enfin, on en revient toujours un peu au même truc, c'est que c'est des notions qui sont tellement intégrées en nous qu'on a du mal à les questionner, j'ai l'impression.
Ouais.
Toi, dans ton livre, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que tu parles d'école philosophique où tu expliques qu'on pourrait mettre des ateliers de philo dès la grande section de maternelle.
Ouais.
Est-ce que justement, c'est pas des choses comme ça qui nous permettraient de cultiver un peu une force de questionnement et qui nous éviterait peut-être de nous enfermer continuellement dans des standards, pour reprendre peut-être un peu Alain Deneau, qu'on réfléchit pas, quoi.
Si, je pense que t'as raison. C'est sûr qu'on est dans des... Bah, l'humain aime plutôt le connu que l'inconnu, ça c'est certain. Et puis comme je l'ai évoqué au tout début dans mon parcours, mais c'est vrai qu'on est dans on a un système, particulièrement en France, d'éducation nationale. Et c'est assez... Je sais pas si vous avez déjà parlé à d'autres gens qui viennent d'autres pays, mais c'est assez fou à quel point notre système, il est vraiment conçu comme ça, où on n'est pas censé poser des questions, mais on est censé apprendre. Alors, ça évolue, hein. Mais c'est assez stupéfiant. C'est vrai que nous, là, quand on y pense, l'éducation nationale, c'est pas, on développe pas un esprit critique, un énorme esprit critique, quoi. C'est pas le but. Nous, le but, c'est plutôt l'instruction, apprendre la culture générale, etc., et des compétences en maths ou quoi que ce soit. Et pas tellement. On apprend assez peu la vie démocratique en commun, en fait. Comment est-ce qu'ensemble on va résoudre des questions,
clair, ouais.
Et comment est-ce qu'on va interroger ce qui est, quoi. Et là, quand je parle de ces ateliers, alors c'est marrant parce que quand on le dit comme ça, on se dit « ouais, bon, c'est un peu anecdotique ton truc », mais en fait, pas du tout. Ça s'appuie sur les travaux d'une philosophe qui s'appelle Edwige Schirrutter, qui est formidable. J'en profite, je fais sa pub parce que je l'avais interrogée dans mon podcast, parce que parfois, je faisais des interviews l'année dernière. Et alors, si vous avez des enfants, ou si vous aimez les enfants, ou si vous fréquentez des enfants, écoutez cet épisode. C'est bouleversant parce qu'elle raconte comment elle pratique la philo avec les enfants depuis 20 ans, puis c'est aussi son objet de recherche. Donc, c'est pas juste elle le pratique, c'est qu'elle l'étudie. Et elle montre en quoi ça fait des... Enfin, t'as l'impression en l'écoutant que ça pourrait tout solutionner, quoi. Qu'en fait, ça crée des petits humains géniaux, quoi, qui non seulement apprennent à questionner, mais apprennent à écouter l'autre, apprennent que leur propre point de vue n'est pas universel et pas parole d'évangile. Et puis, en fait, ce qu'elle montre, et c'est ça qui est le plus bouleversant, c'est que ça redonne de l'estime de soi et de la valeur à certains enfants qui ont déjà si jeunes intériorisé leur infériorité sociale. Et alors, quand ils sont plus grands, c'est encore plus marquant. Mais elle dit, il y a des enfants à qui on voit qu'on leur a déjà appris qu'eux, ils étaient peut-être moins intelligents, qu'il fallait moins qu'ils parlent, qu'ils avaient moins de choses intéressantes à dire par rapport à d'autres. Enfin, on sait que dès la maternelle, hein, il y a déjà des distinctions sociales, sociologiques qui se créent, hein, entre les enfants issus de classes populaires ou de classes dominantes, quoi, sur la maîtrise des mots, sur l'aisance. Enfin, et donc, elle montre Elle dit, elle a aussi fait des ateliers de philo en prison avec des mineurs, des très jeunes adolescents. Et elle dit, et c'est vraiment émouvant, qu'en fait, elle voit petit à petit, semaine après semaine, les corps qui se redressent. Parce que vraiment, c'est des gamins qui sont brisés, qui ont été accablés, à qui on a dit « tu ne vaux rien ». Et tout d'un coup, on accorde de la valeur à leurs paroles, à leurs pensées. Et elle dit, semaine après semaine, tu les vois qui retrouvent une dignité quelque part, enfin, à qui on accorde à nouveau un regard digne. C'est assez cool. Et donc, pardon, je me suis enflammée parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mais oui, en fait, quand tu entends ça, tu te dis, mais bien sûr, c'est aussi une école, une conception démocratique. Alors ça, j'en parle pas dans le livre, mais il y a un philosophe qui s'appelle John Dewey, qui est un philosophe états-unien du début du 20e. Et lui, il a pensé déjà ça un peu. Enfin, elle s'ancre justement dans le prolongement de ses réflexions. Et lui, il concevait la démocratie comme une forme de vie en commun. C'est-à-dire que c'est pas juste la démocratie, c'est pas juste quelque chose qui se pratique dans les institutions politiques et dans les hémicycles, c'est une forme de vie. Et donc ça, pour lui, pour John Dewey, ça se pratique dans l'éducation qu'on donne à ses enfants déjà et à l'école. Et en fait, Dewey, il a créé des écoles. Il a créé des écoles où justement les enfants étaient mélangés en différentes classes d'âge. Là encore, on n'était pas rien que les classe par âge, on est déjà dans une idée un peu presque de hiérarchie, quoi, de parcours comme ça qu'il faut obtempérer. Donc là, ils mélangeaient les classes d'âge et puis les enfants devaient résoudre des problèmes ensemble et donc bah tu passes ton temps à penser démocratiquement comment faire, comment trouver une solution, comment travailler ensemble, etc. Et ça, je trouve ça assez enthousiasmant en fait de réenvisager une école qui serait véritablement émancipatrice où l'idée serait pas de t'apprendre des choses. De t'instruire, mais plutôt de t'apprendre, de donner le désir d'apprendre et de développer ton esprit critique et ton esprit de coopération, en fait.
Ouais, puis il y a ça, et puis un peu ce que tu disais là, mais cette idée aussi de se dire que la politique, au final, c'est pas que quelque chose qui est technique et réservé à quelques-uns, mais que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien et que, en fait, ça se retrouve dans plein d'aspects de notre vie.
Ouais.
Et ça me fait penser aussi à ce que tu dis au niveau des enfants. Il y a un reportage sur Arte qui est sorti il y a pas très longtemps. Alors, nous, on l'a pas regardé, mais c'est ce qu'on nous a dit du reportage. C'est que, en fait, c'est des enfants qui sont en maternelle et qui parlent de sujets d'actualité. Et en fait, on se rend compte dans le reportage que, en fait, ils ont beaucoup de choses à dire sur l'actualité, en fait, qui savent beaucoup de choses dessus, quoi.
Et, ah ouais, c'est en maternelle.
Et c'est justement ça, en fait. Ouais, bah, je crois que c'est en maternelle ou.
Ah ouais, c'est en maternelle ou CP ou. Enfin, c'est vraiment le début de l'école, quoi.
Enfin, leur partage est dispo sur la chaîne YouTube là, d'Arte. Et en fait, ouais, en fait, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de choses à dire, etc. Et c'est un peu ce que tu dis là, au final. C'est, bah ouais, en fait, c'est se dire, en fait, cette politique-là, un peu du quotidien, etc., elle peut être déjà immiscée dès le plus jeune âge pour faire émerger, en fait, plein d'idées intéressantes, quoi.
Ouais,
et justement, que toi, les enfants puissent prendre la parole et s'exprimer sur des sujets. Je sais pas si le parallèle est peut-être flou, mais ça me fait un peu penser à ce que disait Jacques Rancière, où il disait que lui, la politique, c'était justement quand on crée du dissensus, mais dans le sens où c'est des gens qui normalement n'ont pas le droit à la parole, ou c'est considéré comme du bruit, qui là vont prendre la parole et s'exprimer, quoi.
Ouais, complètement. Bah c'est ce que dit Rancière et c'est ce qu'on dit là, c'est redonner la parole, enfin c'est rien que ça, tu sais que l'étymologie de enfant c'est infants, celui qui ne parle pas, c'est l'étymologie du terme. C'est celui qui n'est pas capable et qui n'a pas le droit à la parole. Donc il y a vraiment cette conception, cette infantilisation, et Rancière d'ailleurs il reprend ça, il dit qu'il y a une infantilisation générale de la société avec ceux qui sont considérés comme des enfants, et donc... C'est là où, ensuite, quand on parle du dissensus, c'est dans la mésentente qui dit ça, non? Sur le dissensus.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et où, justement, ouais, enfin, ce que tu dis là, ça redonne tout d'un coup de la voix à ceux qui en ont été privés. Et sur la question de l'enfance et sur la question de la pratique quotidienne de la démocratie et de finalement l'égalité radicale, hein, c'est un peu ça dont on parle. Je parle pas mal de Rancière dans le bouquin aussi parce que sa pensée est quand même toujours, c'est enfin moi ça me fait toujours j'utilise l'expression dans le livre de bourrasque intellectuelle, moi ça me fait toujours cet effet là Rancière, tout d'un coup tu te prends bon, je trouve ça toujours vraiment chouette, mais sur la question de l'enfance, tu vois, tu peux te poser, enfin tu peux rien que dans ton éducation, c'est fou comme c'est un lieu qui est révolutionnaire, en fait, l'éducation d'un enfant. Moi j'ai un enfant qui a 4 ans Et en fait, tu passes ton temps, enfin tu peux, hein, tu peux aussi ne pas le faire, mais tu passes ton temps à interroger la légitimité de ce que tu fais et de ce que tu dis. Et notamment, moi, il y a quelque chose qui est très... Bon, c'est intéressant. Hein. Parfois, tu dis, bah, ce que je lui demande de faire, là, et, ou parfois tu vas t'énerver, etc. Est-ce que je le fais par autoritarisme pur ou parce que vraiment, ça a une valeur éducative pour lui, quoi, tu vois. Et en fait, on se rend compte à quel point on a des réflexes autoritaristes qui nous ont été inculqués, en fait. Mais on nous apprend à obéir pour le... J'ai juste l'expression en anglais, mais je ne veux pas faire la meuf de LinkedIn qui dit des anglicismes. For the sake of it. Juste pour le fait d'obéir, quoi. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est imprégné dans notre culture. Alors, je parle de la France, mais j'imagine que c'est dans d'autres pays aussi. Mais en France, c'est extrêmement marqué, quoi. Et donc, si déjà, on est dans une idée d'une éducation et d'une école qui serait émancipatrice et non pas qui reproduirait cette instruction et cette obéissance, déjà, on pourrait... Et puis, cette hiérarchie, parce que on va pas passer 2 heures sur l'école, mais en fait, rien qu'à l'école, t'as la division de l'école technique et de l'école générale, qui derrière, qui est hiérarchique évidemment, et qui derrière va reproduire la division hiérarchique du travail dans la société. Donc en fait, il y a un continuum depuis le plus jeune âge. La vie sous le capitalisme n'est qu'une succession d'apprentissages et d'intériorisation de la domination et de la hiérarchie, en gros.
Mais c'est vrai que, aussi, toi, si on revient un peu sur l'histoire de démocratie, on voit bien que la démocratie est une des grandes perdantes du système du privilège. Comme tu l'expliques dans ton livre, de toute façon, la démocratie dite représentative, c'est vraiment fait pour une élite qui va gouverner un peuple ignorant. Tu parlais de l'anarchisme tout à l'heure, mais il y a aussi des vraies ressources à avoir de ce côté-là, parce qu'ils ont une conception aussi qui est complètement différente. Alors on a souvent l'impression que l'anarchie est balayée d'un revers de main, parce que on a cette idée-là que l'anarchie c'est le bordel et tout ça, mais en fait c'est beaucoup plus c'est tout l'inverse, quoi. Je pense que tu parlais de l'anarchie tout à l'heure. Je pense que tu connais peut-être aussi un peu le mouvement et je pense qu'au niveau démocratique, il y a aussi des vraies choses à chercher de ce côté-là, quoi.
Ah bah il y a aucun doute. Bah d'ailleurs, mon bouquin, toute la partie de proposition, alors pas que ça, mais c'est un espèce d'énorme plaidoyer anarchiste, quoi, qui juste dit pas son nom parce que, comme tu dis, c'est un terme qui est très mal compris et souvent qui fait très peur, en fait. Parce que, c'est pas un hasard. Hein. Il y a eu à un moment une stratégie rhétorique pour disqualifier l'anarchie et en faire un synonyme de chaos et de fin du monde, quoi. La théorie des communs, c'est directement hérité c'est un héritage anarchiste du direct. La question de la suffisance aussi. Enfin, en fait, c'est évidemment tout ça, c'est des questions anarchistes. Moi, je pense que l'anarchisme c'est la fameuse troisième voie entre capitalisme et communisme qu'il faut explorer au 21e. Et je pense qu'il y a un renouveau anarchiste énorme. Hein. Faut voir le retour. Bon, il y avait Tony Negri, même si finalement c'était un espèce de communisme libertaire un peu entre les deux, mais dans les contemporains, faut voir le retour. Timothée Parry, tout ce qu'il dit c'est inspiré de trucs anarchistes, le retour de André Gortz, il y a tout un courant quand même qui est un espèce de néo-anarchisme, et avec aussi l'envie d'en revenir à des échelles plus locales, à des fédéralismes ou des municipalismes, pour parler de l'expression de Bookchin. En revenir à... En fait, rompre avec la dépossession démocratique qui est celle de la démocratie représentative, où effectivement, ça c'est encore du Rancière, hein, pas que lui, mais en partie, où la démocratie représentative n'est justement pas démocratique. C'est de la délégation de pouvoir ou de la confiscation de pouvoir, en tout cas. Donc oui, revenir à une démocratie même pas participative, plus que ça. Parce que la démocratie participative, j'aime pas cette expression qui est presque un peu condescendante, quoi. Genre, c'est sympa de participer, tu sais, il y a vraiment cette idée-là. Et c'est un peu consultatif, quoi, quelque part. C'est pour ça. J'aime bien chez Dewey, par exemple, l'expression de démocratie créatrice. C'est-à-dire les créatrices de formes de vie en commun. Parce que un des intérêts des courants anarchistes, je dis bien au pluriel, parce qu'en fait, entre un Proudhon et un Bookchin, je ne suis pas sûre que tu aies beaucoup de points communs. Proudhon, ce sale misogyne, au passage. Attends, ça m'a fait perdre le fil de parler de Proudhon. je disais sur les stratégies.
La démocratie créatrice.
Ouais, la démocratie créatrice de Dewey, où c'est la création de, voilà, c'est ça, ce que je voulais dire. Création de formes de vie en commun. Donc, ce qui est intéressant dans les courants anarchistes, c'est que justement, souvent, c'est pas un modèle à appliquer partout. C'est vraiment l'idée de des humains qui se mettent en communauté et qui créent ensemble en fonction de leur situation. C'est aussi le cas d'ailleurs dans la théorie des communs de Lina Rostrom, c'est que y a pas c'est pas un grand paradigme où tout le monde fait la même chose. Elle montre que justement en fonction des endroits, des ressources, des lieux et des cultures, les choses se configurent de manière différente. Elles s'adaptent aussi, les gens s'adaptent, ajustent en fait. Et on n'est pas dans un grand système, un grand paradigme appliqué comme ça. Et la théorie des communs, qui est aussi d'ailleurs une théorie ultra politique, hein, parce que c'est pas juste de la gestion économique, c'est évidemment de la gestion démocratique. Et à ce moment-là, on en arrive à une démocratie radicale, un peu au sens de Rancière, alors qui sera jamais parfaite, parce que, comme le dit Rancière assez bien, la démocratie est un principe tellement radical et subversif et scandaleux qu'on ne peut jamais prétendre qu'elle est achevée et réalisée. Mais par contre, tu peux toujours te dire, ok, est-ce que je suis en train de, enfin, ça doit être toujours une espèce de questionnement éthique qui vient réinterroger tes pratiques, en somme. Voilà. Et effectivement, des échelles plus locales, où les gens, enfin, comme, où les gens vont co-créer leur environnement et co-diriger leur environnement, tout simplement, quoi. Ce qui paraît, en fait, quand on le dit, d'une évidence incroyable, mais il y a eu quelques 250 ans qui sont passés par là pour nous dire, bah non, pas du tout. Il faut que ce soit l'élite politique qui le fasse à votre place. En fait, on en revient à des choses. Là encore, hein, on pourrait se dire, on en revient à ce qu'on fait un peu au quotidien, quoi, dans notre vie, de manière assez intuitive et naturelle, en fait.
C'est un peu ce que défend Olivier Besancenot aussi, justement, lui, avec une démocratie, enfin, une démocratie qui serait plus faite par le bas, au final, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Pardon, j'ai rigolé parce que je m'attendais pas à Besancenot, mais c'est trop bien d'avoir Besancenot dans cette conversation. Bah oui.
Parce qu'il a fait un bouquin il y a pas longtemps, là, en finir avec les présidents, où justement, il réexplique un peu tout ça. Mais en fait, c'est totalement ce que tu dis là. Ouais, lui, ce qu'il dit, c'est d'avoir cette démocratie vraiment faite par le bas, en finir avec cette figure du président. Et puis justement, ce que tu dis, au final, lui, il estime en fait qu'on pourrait régler 80% de nos problèmes en fait par des choses qui sont faites localement et du coup, ce qu'il appelle lui par le bas, enfin par nous, quoi.
Ouais.
Et que effectivement, c'est ce que tu disais là, que du coup, en fonction des bah, d'où tu habites, etc. En fait, c'est pas du tout la même réalité, et puis du coup, que les solutions seront pas les mêmes, quoi. Donc, c'est que l'échelle locale permet de, bah voilà, d'adapter, en fait, nos besoins à ce qu'on veut vraiment, quoi.
Bah ouais, totalement. Mais en fait, on est dans un, enfin, le système, la philosophie politique qui est celle qui guide notre, enfin, qui régit notre société, c'est vraiment celle, j'en parle dans le bouquin, mais c'est ceux qui ont gagné à la Révolution, parce qu'il y a eu des énormes batailles philosophiques, hein, politiques et philosophiques. Le courant qui a gagné, c'est le courant, par exemple, de Condorcet, qui sont des courants progressistes, mais condescendants. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le peuple n'est pas encore en état de gouverner. Peut-être qu'un jour, il le sera, mais que pour l'instant, il faut qu'il y ait une élite éclairée qui gouverne à sa place. Parce que ce serait quand même, enfin voilà, et en fait ça c'est quelque chose qui oriente complètement cette, c'est vraiment la culture intériorisée par la bourgeoisie et la classe dominante. C'est bah ils sont, voilà, c'est les sans-dents, quoi, les gens qui ne sont rien, on va s'occuper d'eux. Mais donc l'espèce d'infantilisation générale de la société, de condescendance et de pédagogie, elle est c'est la philosophie politique de la société française, de la République française. Il dit, bah ouais, mais... et c'est pour ça, dans le bouquin de Rancière, d'ailleurs, il le dit, hein, le titre « La haine de la démocratie », c'est exactement ça. Il dit « Ceux qui n'ont que le mot de démocratie à la bouche sont ceux qui la haïssent le plus », parce que justement, ils considèrent que le peuple ne doit pas avoir le pouvoir parce qu'ils sont absolument pas capables, quoi. Alors, c'est vieux, hein, parce que déjà, Platon disait la même chose. Mais tant qu'on n'aura pas rompu avec cette idée-là, on aura une bourgeoisie qui, en plus, se radicalise et qui considère que bah, c'est eux, seulement eux, qui doivent détenir le pouvoir et que tous les autres sont des dangereux... des dangereux anarchistes, justement, qui vont mettre la France à feu et à sang, quoi.
Mais par contre, tu disais un truc dans ton livre qui me... Tu sais, quand je l'ai lu, je me disais, ouais, putain, quand tu disais, Ponce, est-ce que c'est pas bizarre de donner le pouvoir à des gens qui le désirent?
Ouais, c'est ce que dit Rancière, ça. C'est génial. Est-ce que c'est vraiment une
bonne
idée?
Ouais, bah ouais, c'est... Ouais. Bah ouais, ça fait réfléchir, quoi.
C'est génial. Il dit, en fait, on a en tête... Ouais, c'est ça, il dit, on a en tête que le pouvoir doit être conquis et désiré, Mais peut-être pas, peut-être pas. Il y a un penseur anarchiste aussi, j'ai oublié son nom, Malatesta, voilà, qui dit ça aussi. Et il dit, en fait, l'anarchisme, c'est parce que j'avais interviewé un philosophe qui s'appelle Édouard Jourdain, qui est super, qui est un spécialiste de l'anarchisme.
Ouais.
Et il raconte ça, justement, de Malatesta, à qui on dit, mais vous trouvez pas que les anarchistes sont un peu des bisounours parce qu'ils pensent justement que les gens sont gentils et que tout va bien se passer et que voilà. Et il dit, bah non, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'on sait que les humains sont complexes qu'on veut pas le donner le pouvoir à une seule personne, mais qu'on veut justement se le partager et empêcher une seule personne d'avoir tout le pouvoir. Et ben, donc tu mélanges ça avec Rancière, ça donne l'idée qu'effectivement, peut-être que quelqu'un qui consacre toute sa vie à la conquête du pouvoir ne devrait peut-être pas l'obtenir. Et la situation dans laquelle nous sommes, je pense, témoigne assez bien de cette illustre assez bien cette analyse.
Il y a un truc aussi qu'on voulait aborder, et je pense que c'est aussi un point qui est important dans ton livre, c'est que tu expliques qu'on peut pas se débarrasser de nos privilèges et que les privilèges ne possèdent pas mais s'exercent, ce qui donne d'autant plus d'écho à la nécessité de changer l'architecture sociale pour renverser ce système de privilèges. Or, dans la société néolibérale dans laquelle on vit, qui a individualisé et dépolitisé bon nombre de sujets, est-ce que tu penses qu'une révolution est encore possible ?
C'est une grande question. J'aimerais bien avoir la boule de cristal. Pour revenir sur le fait que les privilèges, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est qu'effectivement, moi, je prends mon exemple. Je ne pourrais jamais renoncer au fait d'être blanche, d'être en couple hétérosexuel, d'être d'une classe bourgeoise et aristocrate, etc. D'avoir l'habitus qui fait que je suis en position de domination. Donc ça, je ne pourrais pas y renoncer. Ça me fait marrer parce qu'il y a un type là qui me harcèle sur Instagram parce qu'il veut que je renonce à ma particule et il veut que j'enlève. Non mais j'ai répondu une ou deux fois. Bon, maintenant c'est bon. Je dis mais c'est ridicule en fait. Ça ne va strictement rien changer. Ça va être juste un effet complètement cosmétique. Ça va pas changer tout le reste. Ça n'a strictement aucun sens. Enfin, je pense. En plus, ce serait juste de la malhonnêteté et du mensonge à mon avis. Mais bon, passons. Mais oui, on peut pas renoncer à ses privilèges comme on se débarrasserait d'un vieux vêtement, parce que les privilèges, c'est plutôt une situation de pouvoir qui s'exerce sur autrui. Et à ce moment-là, l'enjeu, c'est pas d'essayer de devenir... Enfin, tu sais, se débarrasser de tes privilèges, genre tu deviens Saint-François d'Assise qui va dans un couvent, quoi. Mais c'est plutôt l'idée de se dire comment est-ce que j'exerce moi mes privilèges. Et donc, l'objectif, c'est de devenir un traître. En fait, un traître, ça c'est une expression de Charles Mills, mais un traître à ta classe, quoi, un traître à ton rang. Et donc d'aller user tes privilèges pour lutter contre les situations de domination et surtout dans un projet collectif. La difficulté, c'est évidemment de trouver le juste milieu. Et j'espère, je me questionne toujours là-dessus et j'espère à peu près y arriver ou en tout cas ne pas trop rater. C'est de pas se positionner non plus dans la position du sauveur blanc, quoi, du white savior qui va dire je vais libérer. Les autres à leur place, ouais. Donc essayer de trouver sa juste place entre humilité mais pas non plus défection, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est un questionnement qui est permanent. Faut jamais se dire qu'on a atteint la position parfaite et qu'on a atteint le bout du chemin. Je trouve que c'est un questionnement et un ajustement perpétuel qui est plutôt assez enthousiasmant, je trouve. Donc ça c'est pour la partie on peut pas renoncer à ses privilèges et donc l'intérêt c'est aussi de pas sombrer ou se complaire dans une introspection un petit peu individuelle, personnelle, mais de se dire comment je passe à une action politique. Pour la question de la révolution, c'est une vaste question. Moi, si je me dis qu'il y aura jamais de révolution, j'arrête tout en fait. Moi, j'ai besoin de me dire qu'un jour on va y arriver. Ce que je me dis, c'est que personne ne l'avait prédit en janvier 1789. Ouais. Alors, ça n'a pas été une révolution parfaite, mais aucune révolution n'est parfaite, je pense. Je pense que personne en 1787 ou 88 ne pouvait prédire qu'il y aurait la fin du féodalisme. On parlait tout à l'heure de comment des dogmes nous paraissent indépassables aujourd'hui. Je pense que les choses peuvent aller vite. T'imagines, on aurait dit à des gars en 1788 que dans 5 ans, on allait décapiter le Louis XVI. C'était audacieux, quoi, comme Paris sur Polymarket, quoi. Donc, je pense que moi, j'ai besoin de me dire que ça peut y arriver. Sinon, j'arrête tout et je vais juste kiffer ailleurs, tu vois. Mais bon, c'est... je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment. Moi, je fonctionne à l'optimisme et à l'enthousiasme. Et je fonctionne un peu à ce que... Enfin, je fonctionne à ce que Lordon appelle la passion désirante, quoi. De se dire... Je désire un modèle alternatif de société. Et c'est ça qui me mobilise. Et pas juste la critique... un peu désespéré, de ce qui se passe, quoi, des abusés. Et donc, moi, j'essaie de me dire qu'on va pouvoir y arriver. Bah, si tu dis, sinon, j'arrête tout, en fait.
Ouais, et puis il y a cette idée aussi, enfin, on écoute souvent ça dans les médias, cette idée du qu'on attend le grand soir, mais en fait, la révolution, ouais, comme ça marche pas comme ça, quoi.
Non. C'est,
ça se construit petit à petit, puis il y a des événements en fait qui s'enchevêtrent et qui font que ça donne ces situations. Enfin, je crois que, je sais pas si je dis une connerie, mais en 1789, il y a eu de la famine avant, quoi, par exemple.
Oui, c'est ça. Ouais, il y a de la famine.
Enfin, ouais, j'ai un contexte qui fait que ça a permis, quoi, cette révolution. Quoi.
Bah, les gens sont acculés et il y a des choses se passent. Il y avait des idées qui avaient infusé aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. On parle quand même de 1789. Il y a eu quelques années où il y a Rousseau, Voltaire, enfin tu vois, qui sont quand même des dont les idées se diffusent en fait. Donc il y a des choses quand même qui, il y a des idées qui circulent. Il y a des circonstances. Je pense que malheureusement, vu la direction climatique qui est prise, la catastrophe qui nous attend, je pense qu'on peut s'attendre à des situations un peu apocalyptiques dans les décennies à venir, quoi. Donc ça peut provoquer des choses aussi. Alors, ça peut provoquer des choses pour le pire et pour le mieux. Sans doute, il y aura peut-être les deux. Mais effectivement, attendre le grand soir, c'est... De toute façon, l'expression de grand soir, elle est caricaturale volontairement. C'est pour disqualifier des gens qui seraient tenants d'une utopie complètement irréelle. Mais en fait, comme tu disais, la révolution, elle... Et puis, comme on dit, on peut déjà... comme on disait tout à l'heure, on peut déjà appliquer des poches de résistance, quoi, des poches de révolution, je pense, dans beaucoup de pratiques quotidiennes. On peut distiller des choses. Et puis, on a la version de Bookchin, de Murray Bookchin, qui, justement, avec l'idée du municipalisme, parle de ça, en fait. De comment on va créer des poches de résistance qui vont se diffuser. Bon, il y a des stratégies différentes, mais en tout cas, on va pas... Enfin, la question, c'est pas d'attendre le grand soir. C'est déjà comment faire vivre, dès maintenant, la révolution, quoi.
On avait une dernière question. Il y a aussi... je trouve ça important aussi, parce que tu expliques dans ton livre que les relations de domination déshumanisent les dominés, les oppresseurs, et qu'en gros, l'exercice des privilèges a un prix, celui de notre humanité. Et en lisant ça, et justement, là, on parlait de révolution, ça m'a fait un peu penser à ce que dit parfois Aurélien Barreau quand il parle de poétique. Est-ce que on ne devrait pas aussi également entamer une révolution d'ordre philosophique et poétique, dans le sens réinscrire notre humanité dans un dialogue avec l'environnement qui nous entoure, voilà, en vue de développer des relations émotionnelles, d'entraide, de partage, de découverte, en lieu et place de finalement toutes ces relations de domination, quoi.
Ouais, totalement. Oui, l'idée, c'est de... La relation de domination, elle est forcément instrumentale. C'est-à-dire que tu vas déshumaniser la personne en face de toi, la considérer comme un objet dont tu vas te servir. Donc, elle est forcément instrumentale. On parle de réification. On peut parler de réification aussi en philo. Tu vas réifier la personne qui est en face de toi. Et c'est sûr que ça... envisager un rapport plus poétique. Alors, c'est marrant parce que tu parles d'Aurélien Barreau, mais je suis en train de découvrir, alors je connaissais pas bien, mais donc j'en suis qu'aux prémices, mais le travail d'une philosophe qui s'appelle Myriam Bahafou, je sais pas si tu la connais.
Ouais, je suis en train de lire un de ses livres.
Ah bah, elle parle exactement de ça. En fait, ça me fait penser à ça, ce que tu dis là. Elle parle exactement de ça, de retrouver un rapport érotique, justement, au sens de désir, de relation émotionnelle, en fait, à notre environnement, ouais. Et pas juste, et en fait, de renoncer à la rationalité instrumentale froide, en fait, à la version où tu déshumanises tout et où tu penses, tu utilises, on en parlait pour la croissance tout à l'heure, mais un peu dans la version extractiviste où, en fait, tu considères aussi bien les humains que ton environnement, que les animaux, comme des ressources à ta disposition qu'il va falloir extraire. Et donc, en fait, se sortir de cette conception de la rationalité instrumentale occidentale, quoi, la version héritée de Descartes, en fait. Et où tu vas justement renouer avec un rapport érotique, pas au sens sexuel érotique, au sens de désir.
Ouais, comme sens... le définit un peu Audre Lorde, quoi.
Ouais, oui, carrément. Donc un rapport poétique aussi, tu parles d'Audre Lorde, c'est complètement ça. Et donc un rapport avec un renouer avec de la spiritualité, un rapport de co-appartenance, en fait. De co-appartenance et non pas d'une humanité qui serait en surplomb. Et en séparation, quoi. Quelque chose de l'ordre de la co-appartenance. Ouais. Ça pourrait être une bonne... c'est une belle façon d'envisager l'avenir, je trouve.
Puis c'était une belle façon de conclure ce podcast. On est toujours un peu nuls pour conclure les podcasts, mais je pense que là, on a une belle conclusion, quoi. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site move.tract.com.
www.lesdiaspora.fr rubrique blog. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode pour découvrir le travail d'Alice de Rochechouart. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout ça via la page contact du site ou via adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de Since Nothing en tapant Tract.move ou Since.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés, à bientôt.